France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit une artiste qui vient du rap, qui flirte avec la pop ou encore la musique électronique. Elle s'appelle Asfar Shamsi, elle a grandi à Strasbourg, elle a appris la guitare au conservatoire. Enfin, tu vas me dire si tout ce que j'annonce est vrai. Hein. Elle a décortiqué les textes de rap sur Rap Genius à l'époque, elle a fait Sciences Po, elle a connu la vraie vie avant de tout remettre en jeu pour la musique. Vous l'avez peut-être découverte avec 2006, ce morceau écrit dans l'urgence, devenu un vrai morceau générationnel entre foot, enfance et passage à l'âge adulte depuis. La scène s'est élargie, les trans musicales, la boule noire, la maroquinerie complète. Et aujourd'hui, un nouveau projet, un nouvel EP qui s'appelle Cui Cui, qui sort aujourd'hui même. On va évidemment en parler tout en essayant de retracer son parcours et de vous dévoiler ses multiples influences. Asfar Shamsi est avec nous à La Régulière.
France Inter. À La Régulière. Mehdi Maizi.
Et partout ils font la guerre, revolver aux ceintures. Je suis là pour la perdre, comme si c'était la fin du monde. Les deux genoux à terre. Si j'avais les mains plus longues, qu'est-ce que je ferais avec? Dis-moi, qu'est-ce que je ferais avec?
C'est un extrait, pardon, du morceau La Crise qui est présent sur ce nouveau projet. Comment ça va?
Ça va très bien et toi?
Bah très bien, je suis content que tu sois là. Et en plus c'est assez rare pour le souligner, car aujourd'hui sort ce projet, Cui Cui. Ça sort un mercredi, ce qui est très rare. On en parlait un peu en antenne, maintenant tout sort le vendredi. Et souvent des embouteillages de sortie. Toi t'as voulu sortir ton projet un mercredi.
Ouais, je suis assez attachée au mercredi. Ouais. Comme je te le disais, pour moi c'est un jour un peu de fête. Et je me souviens, à l'école primaire, j'avais mon mercredi après-midi libre, je faisais mes activités comme je voulais. Donc déjà, c'est un jour qui pour moi est cool dans la semaine. Ouais. Donc j'aime bien sortir mes morceaux un jour cool. Et puis après, ça sert à rien pour moi de sortir le vendredi. En vrai, il y a le week-end d'après. On n'écoute pas forcément la musique le week-end, en tout cas moins. Et puis c'est saturé. Et je préfère laisser le temps aux gens de découvrir ma musique à d'autres moments, quoi.
Comment on sent quand on vient de sortir un nouveau projet comme ça? T'es libérée, t'es soulagée, t'es un peu de stress?
Il y a tout, je pense, un peu en même temps. Je suis contente, pour moi, il y a différentes étapes. Le fait déjà d'avoir bouclé le projet, d'avoir les masters, en fait, ça c'est pour moi la première libération et ça me permet vraiment de passer à la suite et à la nouvelle musique. Et après, le fait de sortir le projet, il y a la question de comment les gens vont le recevoir. J'ai hâte de jouer les morceaux sur scène, de leur donner une seconde vie en fait, je trouve que les processus de finalisation d'un projet sont toujours assez douloureux et poussifs, puisqu'on doit s'attarder sur le moindre détail et je suis assez perfectionniste.
Ah ouais, ok.
Et en fait, après, je me réconcilie quand ça sort, parce que je vois que ça peut parler à d'autres personnes. J'ai hâte de voir comment les gens vont, qu'est-ce qu'ils vont comprendre de ce projet-là, qui pour moi est un peu plus optimiste et plus heureux que ce que j'ai pu faire jusque-là. Et puis j'ai hâte de partager ça et de les redécouvrir en fait avec le public, quoi.
Alors on va bien sûr parler du projet, mais je pense que c'est aussi important de parler de toi, même de comment t'as commencé à faire de la musique. Je crois que t'as longtemps fait de la musique un peu en cachette. À quel moment c'est quelque chose que t'as assumé, avec lequel t'as été plus à l'aise?
J'ai fait de la musique longtemps. Enfin, d'abord j'ai fait de la guitare au conservatoire, comme tu l'as dit. Donc là ça, tout le monde était au courant. C'était vrai.
Ok.
Donc mes parents allaient à mes auditions, mes sœurs, j'ai deux grandes sœurs qui faisaient aussi des instruments au conservatoire, et j'ai assez vite lâché parce que c'était très protocolaire, je trouve, comme façon d'apprendre la musique. Et puis j'ai redécouvert la musique via le rap à l'adolescence, et ça je l'ai caché parce que je viens pas d'une famille qui écoute du rap, et pour mes parents c'était pas... Enfin, ils considéraient pas ça comme vraiment de la musique.
Ouais, il y avait des a priori sur...
Grave. Et du coup jusqu'à mes 23-24 ans, j'ai caché ça à mes parents. Je disais que je faisais un peu de musique.
Toi, t'as commencé à faire du rap, du coup, à l'adolescence, c'est ça?
Au lycée, principalement au lycée, j'ai commencé à en faire avec des potes.
Ouais.
Et après, j'ai déménagé, je suis acheté une carte son, un micro. Et j'ai commencé à faire des morceaux un peu plus, moins freestyle, quoi, mais à structurer un peu plus des chansons. Et ça s'est axé comme ça aussi vers de la pop, puisqu'il y avait plus de mélodies et des structures peut-être un peu moins. Un peu plus pop aussi dans la forme, quoi, de la chanson. Ouais. Et en fait, en 2024, j'étais prise à un dispositif d'accompagnement qui s'appelle le FER.
Ouais.
Et j'ai dû, quitter mon travail. Et donc ça, j'ai dû l'annoncer à mes parents.
C'était obligatoire? Tu pouvais pas? C'était trop dur de concilier les deux?
Ouais, c'était trop dur. En fait, il fallait poser des jours pour aller assister à des formations. Ouais. Et mon employeur m'a dit à l'époque, soit on fait une rupture conventionnelle, soit tu ne vas pas à ces formations.
Ouais.
Et donc j'ai pris la rupture conventionnelle qui en vrai était un beau cadeau.
Oui, parce qu'il aurait pu juste...
Ouais.
Donc t'as pu du coup avoir le chômage, etc.
Ouais. Ça, okay, et ça m'a vraiment permis en fait d'après choper mon intermittence et de développer, me mettre à fond sur la musique.
Ouais.
Je pense que je suis assez averse au risque et donc je l'aurais pas fait sans ce cadeau.
T'as eu peur frère.
C'était
effrayant.
Ouais, c'était assez effrayant en fait. C'est un saut dans le vide quoi.
Ouais.
Et on ne sait pas ce qu'on va avoir, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on y gagne. Donc c'est toujours un peu terrifiant. Et en fait, heureusement que j'ai fait ça, je suis trop contente d'avoir fait ça. Et voilà, en faisant ce saut dans le vide, j'ai dû l'annoncer à mes parents. Mes parents ont cherché sur le site Internet du Fer pour avoir mon nom d'artiste. Et là, de là, ils sont allés diguer dans, dans tout ce qui existait. Et je sais que maintenant, ils suivent activement.
Ok. Et maintenant, est-ce qu'ils sont plus en paix avec l'idée que tu fasses du rap, entre autres? Parce qu'effectivement, je pense que tu as une proposition qui est rap, mais pas uniquement, comme je le disais en introduction. Mais on sent que ça, c'est en toi, on sent que t'en as écouté, que t'en pratiques aujourd'hui. Est-ce qu'ils sont plus en paix avec l'idée que tu puisses être vue comme une rappeuse, collaborer avec des gens du rap?
Je pense à partir du moment où il y a une espèce de légitimité qui est donnée à ma musique, par exemple, typiquement, être sur la radio, être sur France Inter, ils s'en foutent après de qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ma... Enfin, l'étiquette qu'a ma musique, quoi. Je pense qu'il y a quelques... Ils ont vu des concerts, ils voient qu'il y a un espèce de truc qui se crée aussi et qui me rend heureuse. Et à partir de ça, je pense que ça... Ils se relaxent un peu sur le type de musique que je peux faire ou ce que je peux dire. Ça va mieux.
En 2023, t'as sorti un morceau qui s'appelle Février et ça ressemblait à ça.
Danse dans le noir, danse quand je bois, danse sous la pluie, je m'en fous de la suite. Danse dans le noir, danse quand je bois, danse sous la pluie.
Effectivement, tu disais que ce nouvel EP, il est un peu plus peut-être lumineux que la musique que tu avais l'habitude de faire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que justement on passe de Février, bon, qui est une production qui reste proche de ce que tu fais aujourd'hui, à des choses justement peut-être plus, même fun, peut-être plus ludiques, comme ce qu'il y a sur le nouvel EP?
Je pense que j'ai grandi et en fait, moi j'ai un peu l'impression d'arriver au moment.
Je pense qu'on est
de
plus en plus heureux en grandissant.
Et bah oui,
c'est
trop bizarre. J'avais vraiment cette idée un peu de l'enfance c'est super, on a l'insouciance et la naïveté et on court après ça toute sa vie. Et en fait, je me rends compte déjà que l'adolescence elle dure beaucoup plus longtemps qu'avant et que je pense qu'il y a encore très peu de temps j'étais adolescente.
Ouais.
Et qu'adulte, enfin être adulte c'est trop bien parce qu'on peut être libre d'être soi-même.
Il y a moins le poids du regard des autres.
Grave.
Ouais.
Et en fait, on peut. Bah, tu vois, je fais le métier que je veux aujourd'hui. Je traîne avec les gens que je veux. Je m'habille comme je veux. J'ai envie de rester chez moi, donc je reste chez moi. Je sors pas faire la fête. Enfin, il y a plein de trucs qu'on s'impose pas quand on est un peu plus à l'aise et avec soi-même et qu'on sait un peu plus qui on est. Et en fait, je pensais pas que ça allait être ça. Et je suis trop heureuse d'être aux prémices de l'âge adulte comme ça, quoi. C'est apaisant, en fait.
Tu dis que tu fais le métier que tu veux. Est-ce que tu voulais faire ça quand t'étais petite?
Je pense que je savais pas que c'était un métier. Donc, à un moment dans ma tête, je me suis dit, ouais, j'ai trop envie de faire de la musique, j'ai trop envie de chanter, etc. Mais je faisais de la guitare. Enfin, ce qui est trop cool avec la guitare, c'est que tu peux t'accompagner sur des chansons. Enfin, je reprenais des chansons, je les chantais à ma maman. Il y avait un truc où ça me faisait kiffer, mais c'était un rêve, quoi. Et je pensais pas que j'allais faire ça.
C'était pas un projet professionnel, tu faisais peut-être même pas l'envisager, en fait. Ouais.
Je l'envisageais, je pense, de mes 6 à mes 8 ans, tu vois. Peut-être un truc comme ça. Ou
ouais.
À un moment, je me suis fait rattraper par la réalité de. Je commençais déjà à grandir. Alors, autant je pense que l'adolescence, elle s'étire très longtemps dans le temps, autant je pense qu'elle commence aussi beaucoup plus tôt. Et donc, je pense que, t'es très vite rattrapé par la réalité. Matériel, t'entends que, enfin, on est dans un monde où on sent que ça va être très dur d'avoir un métier plus tard, etc. Donc je me suis vite sentie en me disant, mais de toute façon, la musique, c'est pas un métier, il n'y a pas besoin d'avoir 15 ans pour comprendre ça, quoi. Donc, ça m'a quitté.
Ouais, sur le projet, il y a une collaboration, entre autres avec Ben PLG. Mm-hmm. Donc on va d'ailleurs écouter ce morceau un tout petit peu après Pistole avec les doigts. Comment ça s'est mis en place avec cet exceptionnel rappeur qui est Ben PLG?
Ça s'est fait de façon hyper naturelle, hyper spontanée. J'étais à Lille. J'étais en session avec Lucci, qui est un compo avec qui il bosse.
Ouais, ça fait. Qui bosse aussi avec Bécard, avec Giorgio aussi.
Avec Jossman. Enfin, plein de gens.
C'est aujourd'hui un producteur très reconnu, en tout cas dans le milieu rap français. Ouais.
Ouais. Et en fait, il est passé à cette session. Je restais 2 jours à Lille, donc on s'est revus le lendemain matin, et il est revenu le lendemain après-midi, et on a fait ce son Lucci a commencé une prod avec mes deux compos à moi qui sont Walby et Lou Fox qui étaient dans ce petit séjour à Lille avec moi. Et en fait, à un moment, je lui ai dit, bah, tu veux jump sur le son? On l'a fait et ça a donné ce son qui, je trouve, est pas vraiment à son image, pas vraiment à mon image et qui est pas de ce qu'on... Enfin, c'est très spontané, donc ça, c'est cool, mais c'est vrai que si j'avais dû projeter un son qu'on aurait fait ensemble,
ça aurait pas été ça. Ouais. Donc c'est vraiment un moment au studio qui a donné ce morceau. Bon, et ben, on va l'écouter. Donc, il est présent donc, sur le projet Cui-Cui qui est sorti aujourd'hui même. Un EP, c'est un EP.
C'est un EP.
On parle d'un EP, exactement. Collaboration avec Ben PLG qui s'appelle Pistolet avec les doigts.
Réfléchis un peu trop, je me fais des frayeurs. Dis, c'est comme la vie d'un rêveur. Je me fais mal à recompter toutes mes erreurs. C'est du poison. Avec mes nœuds, j'attrape même pas un gros poisson. Au pied du mur comme un maçon. Mais demain, j'aurai le plus vert des gars. Je fais un pistolet avec mes doigts. Clic, clic, boum, boum sur mes démons. Je suis en béton, je vais au studio poser les voix. Et je retrouve un peu de ma raison. À l'intérieur, je nettoie comme si c'était moi la maison. Je fais un pistolet avec mes doigts. Rire et pleurer, je fais les deux. Je tire un fil de ma mémoire. Mais le fil, il fait des nœuds.
Avec les doigts, j'ai grandi mais je galère encore avec les choix. On est naturel, ça les régale. Font la face du père voleur avec les étoiles. Pas d'ascenseur, on monte les étages. Touche partout, je fais n'importe quoi avec les réglages. Mais on bouge la tête comme le caniche à l'arrière de la Volkswagen. J'ai déjà porté des contrefaçons, mais le souvenir peu à peu s'estompe. Je fais le foot à tête finie dans le mur, comme dans la pub fixation béton. Je finis le son et je ressens des frissons. Je resterai après le couplet si vous avez des questions. T'as fait trois morceaux bien depuis t'es en gestion. Je fais un pistolet avec mes doigts. Clic clic boum boum sur mes démons. Des remords j'en aurais pas. J'suis en acier, j'suis en béton. J'vais oser poser les voix. Et j'retrouve un peu de ma raison. À l'intérieur je nettoie. Comme si c'était moi la maison.
J'fais un pistolet avec mes doigts. Rire et pleurer, j'fais les deux. J'tire un fil de ma mémoire. Mais le fil il fait des nœuds.
C'était donc le morceau Pistolet avec les doigts de notre invité ce soir, Asfar Chamsi, en collaboration avec Ben PLG.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Et je le disais en introduction, tu as commencé à décortiquer les textes de rap, notamment sur Genius. Avant, ça s'appelait Rap Genius. Pourquoi qu'est-ce qui te poussait à l'époque à aller décortiquer un peu tous les textes comme ça? Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont particulièrement marqué à l'époque, qui t'ont peut-être aussi influencé aujourd'hui dans l'écriture?
Je pense que ça a commencé comme ça parce que justement, j'avais pas une famille et notamment des parents qui reconnaissaient le rap comme étant une musique et qui valorisaient ça. Donc je me suis, enfin, le premier truc que j'ai trouvé dans le rap, moi, c'était l'écriture. Et quand on n'est pas habitué à écouter du rap, enfin moi, chez moi, on écoutait un peu de musique du monde, un peu de musique classique, la radio.
On va revenir après sur ce qu'on écoutait à la maison. Voilà. j'ai des questions là-dessus.
Mais tu vois, en fait, mon oreille, elle n'était pas habituée à ça. Et comme toujours musical que tu découvres, au début, il faut se créer des repères. Et en fait, bah, j'ai d'abord découvert les textes et après, j'ai mis la musique. Enfin, ça a été mis en musique dans mes oreilles.
Okay.
Et donc, j'ai beaucoup poncé des textes sur Rap Genius et je pense que ça a commencé avec Gizmo et La Smala.
Ok. La Smala, c'est un groupe belge, notamment. Ouais. Ok.
Ouais, je pense que ça a été vraiment le début. Et après, c'est de fil en aiguille, tu vas loin comme ça. Mais...
Alors, je crois que sur le morceau 2006, il y a un artiste que tu cites, c'est This Is. Notamment, tu cites plusieurs albums, dont l'album Pacifique.
Tout ce que j'ai pas osé dire, ce qu'on dit en chanson, mais jamais dans la vie. ma doudou, ma doudou, amour de ma vie. Y'a qu'à tes côtés que je veux attendre le mardi. Ma doudou, amour de ma vie. Y'a qu'à tes côtés que je veux attendre le mardi.
T'emmène dans les îles, baby. Et tu fais pas de film.
Ça, c'est un extrait du morceau Marquise avec Hamza. J'étais obligé de mettre ce morceau. Hamza qui reprend Lord Coffity. Voilà, j'étais obligé de mettre ça. Dans quelle mesure DC's, parce que, alors, peut-être que tu l'as cité comme ça, mais tu cites quand même trois albums de DC's. L'amour, Pacifique et Translucide, si je ne dis pas de bêtises. Pardon ? Extra-lucide peut-être, pardon. Parce qu'il y a Translucide aussi, mais c'est Extra-lucide que tu cites, pardon. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui t'a particulièrement marqué à un moment aussi ? Parce qu'il est aussi un peu comme toi, même si vous ne faites pas la musique, cette faculté à aussi aller vers différents genres musicaux. Aujourd'hui, le dernier album, d'ailleurs, ressemble moins à du rap qu'à d'autres choses. C'est aussi quelqu'un qui s'est affranchi aussi de pas mal de codes, je pense, dans sa carrière.
Oui, moi, c'est ça. Enfin, c'est surtout ça que j'ai découvert DC's un peu plus tardivement que d'autres rap. Peur. Et en fait, je l'ai vraiment découvert dans mon ouverture à moi. Enfin, tu vois, j'avais vraiment un truc très rap FR à un moment, surtout à l'adolescence. Et puis, je me suis ouverte à d'autres styles musicaux et à d'autres types de rap et à d'autres types de chansons. Enfin, et en fait, dans cette ouverture-là, j'ai découvert tout le taf de DC's. Mais enfin, je suis allée vraiment diguer dans tout ce qui a pu être fait, quoi. En fait, je trouve que c'est à la fois on le reconnaît et à la fois il sauve cette liberté, et je trouve que c'est trop beau, et c'est ça qu'il faut faire. Enfin, moi j'aimerais pouvoir faire en tant qu'artiste, tu vois, de jamais me mettre de carcan. C'est pour ça que je fais ce métier là et c'est pour cette exploration là que...
Est-ce que tu te sens parfaitement libre aujourd'hui quand t'es en studio? Il n'y a pas de limite?
Franchement, je crois que et en fait je commence toujours chez moi. En général, j'ai toujours des idées chez moi, des idées de texte, des
ça part
des
du texte, toi, à la base ça part souvent du texte.
Et en fait, chez moi, il n'y a rien qui peut m'atteindre, enfin, il n'y a rien qui peut m'arrêter, il n'y a personne qui me regarde, et j'ai besoin de cette intimité-là pour justement m'affranchir et ne pas mettre de barrière. Et en fait, je travaille aujourd'hui avec deux personnes qui m'autorisent aussi ça, et avec qui on cherche, et c'est ça qu'on ne va jamais se lasser, parce qu'en fait, on cherche et qu'on n'essaie rien de reproduire.
Deux personnes, c'est, pardon, je ne veux pas écorcher le nom, c'est Wolby et Lou Fox,
c'est ça ?
Wolby à la batterie ?
Entre autres,
et Lou Fox au clavier. Ça, c'est vraiment votre... équipe, en fait, c'est comme ça la confiance dans laquelle vous travaillez à chaque fois, c'est toujours tous les trois.
Ouais, je pense que là, de plus en plus, on va aussi s'élargir et aller travailler avec d'autres personnes, notamment nous, on n'est pas des virtuoses instrumentistes, tu vois. Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher ailleurs, mais il y a un triangle de base qui est hyper important et qui donne, je trouve, la fondation et la sécurité pour aller explorer, en fait.
Ouais, mais voilà, c'est ça, il y a peut-être une forme de... Tu te sens confortable aussi avec eux, et c'est peut-être dans ces moments-là qu'on est capable de tenter des choses, même parfois de rater, en fait. C'est peut-être, j'imagine qu'en studio, ça arrive aussi, et que ça participe à la création, en fait.
Et en fait, on va jeter plein de choses, mais à la fin, on va se dire, ah bah, peut-être qu'on jette ça, mais genre, ce morceau-là, ou cette version finale, c'est l'enfant de ce projet avorté avant, tu vois. Et donc... Ça a du sens, quoi, de faire comme ça.
Qu'est-ce qui te plaisait autant dans les textes de rap ? Est-ce que c'était la technique ? Est-ce que c'était l'émotion que ça pouvait transmettre ? Parce qu'en plus, j'imagine que quand tu vas d'abord sur Genius, t'as pas la musique, justement, donc t'as peut-être moins l'émotion, je sais pas. Est-ce que c'est les placements, les assonances, les multisyllabiques ? Qu'est-ce qui t'attirait autant là-dedans, dans ces textes à l'époque ?
Je pense la technique, les allitérations,
okay.
les assonances. Genre, en fait, tu peux lire le texte, mais comme dans la poésie à la fin.
Tu
lis le texte, t'as une rythmique qui se dégage sans avoir forcément la musique. Si tu l'écoutes sans musique, en fait, tu peux le retrouver une forme de groove juste en lisant le texte. Donc il y avait un truc très technique que je trouvais, mais genre matrixant, fabuleux.
Et c'est assez même ludique à observer, à analyser, en fait, quand ça rebondit.
C'est facile. C'est trop chaud, quoi. Et après, il y a des métaphores et des images que je trouve qui sont soit pleines de dérision et donc hyper gaulerie, soit hyper touchantes, et plein de façons de dire des choses qui sont difficiles à dire simplement, mais avec une belle image, ça suffit, on capte, et je trouve que là-dedans il y a beaucoup d'émotions aussi, quoi.
Bon, on continue de parler en tout cas jusque 23h avec Asfar Jamsi. Et tu parlais il y a quelques minutes de ce qui passait à la maison, notamment de la musique qui pouvait être jouée à la maison. Et je crois que ta maman, elle aimait beaucoup. Tu m'arrêtes si je me trompe, encore une fois. Laurent Voulzy, je crois que ça passait à la maison.
Oui, alors juste pour sa défense, elle
aime... Mais attends, c'est pas une attaque, Laurent Voulzy, c'est très bien. Laurent
mais elle aimerait que je dise à chaque fois qu'elle écoute aussi Patti Smith.
Eh bien, regarde, d'abord Laurent Voulzy.
J'ai le cœur grenade.
C'est bien quand même ça, le cœur grenadine. En vrai, non, t'aimes pas ?
Moi, j'adore. J'adore. D'accord. J'adore, mais en fait, je suis presque déçue parce qu'elle m'a dit, en fait, mais moi, j'écoutais ça parce que pour moi, c'est de la musique que je pouvais écouter avec des enfants. Donc on écoutait ça le mercredi, tu vois. Et donc moi je me suis construit un peu ce mythe de ma daronne, elle adore Laurent Voulzy.
Alors que
moi...
pas tant que ça en fait.
Alors que pas tant que ça. Du coup je suis un peu déçue de ce truc là, mais moi je trouve ça super. Enfin, ouais. J'étais à la salle Playa il n'y a pas trop longtemps là, il jouait. Et je trouve ça, enfin je sais pas, ça, il y a un truc très chaleureux parce que c'est un truc de mon enfance.
Ouais, ouais, bien sûr. Mais ta maman elle écoutait aussi Patti Smith. Voilà, j'espère que ta maman sera contente. Voilà, qu'on a respecté l'intégralité de ses goûts. Tu dis que ton papa écoutait peut-être plus des musiques du monde. Est-ce que ça, justement, ces morceaux-là que tu écoutais petite, est-ce que tu as l'impression que ça fait partie de ton ADN aujourd'hui, que tu le recraches ça d'une manière ou d'une autre dans ta musique, aussi bien Patti Smith que la musique du monde que ton papa écoutait, que Laurent Voulzy, que le rap, tu as l'impression d'être un peu un mélange de tout ça, même de manière inconsciente peut-être.
Ouais, je pense que je le suis et que je me l'autorise beaucoup plus qu'avant, tu vois, où justement, bah, je disais à l'adolescence, j'étais dans un truc très rap à faire, enfin, reproduire quelque chose qu'on écoute.
Ouais,
et presque.
C'est logique, ouais, quand ouais, tu. Ouais. Oui, sûr.
Mais en fait, plus, mais c'est encore ce truc de devenir adulte et de s'accepter un peu plus soi-même et d'accepter en fait qu'il y a des choses qui ont infusé, que je le veuille ou non. J'ai écouté Laurent Voulzy quand j'étais petite et ça m'a marqué, tu vois. Et je pense que notamment je fais de la guitare parce qu'il y avait ce petit livret avec Laurent Voulzy et sa guitare. Il y a plein de choses en fait où c'est là, malgré nous, qu'on le veuille ou non, et on fait avec. Et je pense que du coup, ça infuse quelque part dans la musique tout ça.
Je crois aussi que petite, t'as pu voyager dans différents pays, l'Iran, la Syrie, le Yémen, si je dis pas de bêtises. Est-ce que t'as le sentiment que. Enfin, qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Est-ce que tu te souviens déjà de ça? Parce que je sais pas quel âge tu avais. Et parfois, quand on est un peu trop petit, on n'a pas forcément. Tu sais, les parents ont toujours envie d'emmener leurs enfants partout, leur dire oh, ça va les éduquer. Mais nous, on ne se souvient pas forcément si ça doit nous marquer d'une manière ou d'une autre. Est-ce que toi, tu te souviens un peu de tous ces voyages et de ces expériences-là?
Oui, je m'en souviens pas mal quand même.
Ouais.
J'ai commencé vers mes 6 ans et tu vois, j'ai fini, je pense, mon dernier voyage avec mes parents, ça devait être vers mes 17-18 ans. Okay. Donc quand même, j'ai eu...
17-18 ans, c'est vraiment le dernier âge où tu veux voyager avec tes parents.
Ouais.
Après mais ça, tu veux être avec tes amis.
Vrai,
parce que maintenant, après, ça y est, tu vois, il faut laisser à moins 5-6 ans sans eux et après, voilà.
Ouais. Mais je sais pas ce que En fait, c'était un peu nos moments de famille, tu vois, parce que mes parents étaient quand même, ils travaillaient beaucoup le reste de l'année.
Ouais.
Et donc, je me souviens que c'est vraiment un moment de partage et de famille. Et je les découvrais aussi dans d'autres facettes de leur personnalité. Tu vois, mon père, il adore les cultures du monde et l'histoire. Et du coup, il y avait un côté très savant qui sortait de ce moment-là et un peu d'admiration aussi quand t'es enfant. Donc, je pense qu'il y a ce truc-là qui se crée, quoi. Enfin, il y a des choses que tu découvres chez tes parents, chez tes sœurs, tu vois, qui sont... Au sein de la famille, c'est important, je pense. Et puis après, moi, ça m'a ouverte un peu au monde aussi. Quoi. Ça m'a donné envie de découvrir ailleurs. Ça m'a donné envie de pas trop juger les gens. Je sais pas si on y arrive, mais ça a fait quand même quelque chose. Ouais.
Oui, c'est ça là, aussi une des vertus du voyage, justement, c'est de se confronter à des cultures qui ressemblent pas du tout à la tienne, en fait.
Ouais.
Je crois aussi, je dois raconter, t'as fait des études, t'as fait Sciences Po, t'as même travaillé en fait, c'est ce que tu racontais en début, non pas que la musique soit pas un vrai travail, hein. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais t'as eu un job en tout cas avant d'être une artiste. J'imagine que quand tu fais des études, etc., enfin, t'es un peu parfois calibré, tu te dis qu'en fait toute ta vie tu vas faire ce pour quoi tu as été formé, tu disais que ça a été compliqué, voire effrayant même de changer de vie en fait. Quand tu arrêtes quand tu fais cette décision-là, est-ce que tu t'imagines ce que tu vas faire derrière? C'est-à-dire qu'il y a la musique qui est en toi depuis quelque temps, mais est-ce qu'à ce moment-là, t'es déjà persuadé qu'il y a une carrière qui va arriver, qu'il y a des EP qui vont sortir, ou c'est dans le flou le plus total à ce moment-là, quand tu prends cette décision?
Je sais pas comment ça va sortir. Je sais que j'ai un projet, qu'il faut que je me batte pour que ça marche, et que d'ailleurs ce sera pas que faire de la musique qui va m'occuper, puisqu'il va y avoir tout le reste, la structuration, blablabla.
Oui.
Et là-dessus, avoir fait des études, je pense que ça m'a un peu aidé.
Tu
vas aller chercher des subs, des trucs très pratico-pratiques, de se dire en fait, on est aussi en France, on a de la chance et... Il y a encore des choses qui existent pour soutenir le développement de la musique. Et donc, j'ai un peu ce truc-là de me dire, je me donne 2-3 ans pour essayer de passer un step et de réussir à avoir mon intermittence à travers les concerts, de développer mon live, parce que j'aime beaucoup faire des concerts et je trouve que c'est une bonne façon de se réconcilier justement avec le processus parfois difficile de clôture de projet. Et puis, je vais sortir la musique, je ne sais pas quelle forme ça va prendre, etc. Mais...
Est-ce que tu avais... Tu sais, parce qu'il y a aussi une forme de pression sociale parfois qui peut exister quand on fait des études plus ou moins prestigieux, tout dépend de ce qu'on fait, quand on a un job plus ou moins prestigieux, et qu'on envoie tout valdinguer, entre guillemets, et qu'on devient artiste. Est-ce qu'il n'y a pas une peur aussi au moment du jugement des autres, en tout cas c'est de la pression sociale, de peut-être des gens qui étaient avec toi, qui eux continuent dans leur travail, et donc évoluent dans leur situation sociale à toi, à un moment tu te mets en danger, est-ce que ça peut faire peur ça aussi?
Bah ouais, ça fait hyper peur, surtout que en fait c'est un moment clé, tu vois, j'ai des potes qui commencent à acheter leur appartement,
il y en a qui vont
potentiellement vont avoir leur premier enfant, etc. C'est, tu te dis, les gens ils construisent quelque chose, et ce qu'ils construisent c'est recevable dans la société, c'est valorisable,
c'est peut-être plus concret en premier abord, ce qui veut pas dire que c'est plus solide, mais en tout cas c'est plus concret peut-être.
Ouais, mais après je vois aussi plein de choses qui me donnent pas envie, tu vois, je vois qu'ils sont dans une espèce de routine, qu'ils savent pas quand ils vont quitter leur taf qu'ils ont envie, mais en fait ils ont quand même une sécurité, etc. Et je suis contente de pas avoir ça, et de pas, enfin limite me pas avoir le choix de cette sécurité actuellement, tu vois, parce que c'est tentant, et en même temps je crois que ça m'épanouirait pas, et là ouais c'est instable, je sais pas de quoi demain est fait, mais par contre ce que je le fais à fond et je le vis à fond avec les gens que j'aime. Et tu vois, mes collègues, je les ai choisis. Il y a tout un truc où, en fait, c'est un système de vie, un équilibre de vie qui me convient, parce que tout est calibré, tu vois. Enfin, je suis l'arbitre de tout ça et le chef d'orchestre de tout ça, quoi.
C'est un vrai luxe, en fait.
C'est un vrai luxe. Ouais. C'est pas un luxe financier, c'est pas un luxe matériel, mais je crois que...
Ça peut le devenir, d'ailleurs.
Ça peut le devenir.
Déjà.
Je sais pas.
Mais ça l'est peut-être pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un luxe d'être au contrôle de tes journées, déjà, en fait. Déjà, c'est quelque chose qui est... Alors, question, mais pourquoi le projet s'appelle Cui-Cui?
Parce que, déjà, je trouve que c'est un projet qui est plus optimiste et plus heureux, comme j'ai pu le dire, et que pour moi l'image de l'oiseau, elle est pleine de liberté.
On revient toujours à cette histoire de liberté.
Je pense que c'est tout le projet. Il parle de ce passage justement à l'âge adulte que je mentionnais avant. Et donc il y a cette image de liberté, cette image d'avancer. Enfin, tu vois, l'oiseau, il va chanter, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, il va s'envoler. Enfin, si dans le monde, si tout va bien.
Ouais.
Et puis après, je trouve que Cui-Cui, c'est très simple. Enfin, il y a rien. Enfin, c'est sobre, c'est épuré, c'est simple. Si on doit imiter un oiseau, c'est ce qu'on va faire. C'est la poésie à portée de main, en fait. Et j'ai envie de plus en plus d'aller vers ça dans mon écriture, d'être au plus près de la simplicité et du truc brut. Et je trouve que c'est ça la plus belle des poésies, quoi.
Donc, si tu devais te réincarner en animal, tu choisirais un oiseau?
Actuellement, ouais.
Mais
il y a quelques années, j'étais un hérisson, et je pense que plus tard, je serai encore
un hérisson. T'étais un hérisson?
Ouais.
Ah ouais?
Ouais. J'adore les métaphores animalières, je trouve que ça dit beaucoup des humains, tu vois. Et avant, j'étais un petit hérisson parce que j'avais mes petits piquants pour me protéger.
Ok.
Maintenant, je me sens un peu mieux.
Là,
je peux m'envoler, exactement.
Bon, très bien. Est-ce que tout était mieux en 2006?
Ah, ça, il y avait plein de choses qui étaient mieux, il y avait plein de choses qui l'étaient pas. Je pense que c'est un mix de tout ça.
On va écouter en tout cas le morceau 2006 qui est donc présent sur Cui-Cui. Et puis après, on va parler un petit peu de l'année 2006 et des choses qui ont été, je pense, importantes pour toi. On s'écoute ça, Asfar Shamsi, 2006.
Je mets des phases B dans ma chambre, comme si c'était Planète Rap. J'écoute la... l'amour, j'écoute Pacifique et j'écoute Extra Lucide. J'dis jamais ça va pas, j'dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques. J'dis jamais ça va pas, j'dis c'est la vie. Rendez-moi la France de Mélanie. 2006, j'ai pleuré pour un penalty. 20 ans plus tard, j'ai d'autres sortes de problématiques.
Arrive David de Trezeguet. Il a évité le regard de Buffon à Trezeguet. Les yeux fixés sur le ballon. David, oh, c'est la barre. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est la barre.
C'était le morceau 2006, donc notre invité ce soir, Asfar Chamsi.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Et Asfar Chamsi, pourquoi être aussi cruel avec nous? Pourquoi nous mettre l'audio de Thierry Gilardi en plus paix à son âme qui commente le pénalty raté de David Trezeguet? C'est un trauma national,
mais
ça.
Oui, mais il faut l'affronter tout
ensemble. C'est comme ça qu'on l'affronte. Ouais. Justement, donc ça, c'est un morceau qui parle pas uniquement, mais notamment de l'année 2006. C'est un morceau que t'as déjà raconté un peu l'histoire de ce morceau, que t'as écrit vraiment un peu dans l'urgence pour, quand t'étais invité au Planet Rap de Youssef Souad, si je ne dis pas de bêtises. Et tu me disais là en rentaine que à aucun moment tu n'imaginais qu'il se passerait ce qui s'est passé autour de ce morceau. Pour toi, c'était juste un freestyle pour la radio. C'est comme ça que tu l'as envisagé à la base?
Un freestyle pour Planet Rap. Enfin, ouais. C'est pas que pour la radio, il y avait vraiment le truc de... Maintenant, je me suis un peu éloignée. Je n'écoute pas que Planet Rap. J'écoute pas, enfin, je regarde pas que des grunts, des freestyles. Ouais, mais il y avait un moment où c'était vraiment ma culture.
C'est un média rap, bien sûr. Ouais,
et pour moi, c'est mythique, tu vois, de me dire demain, bah, tu vas pouvoir aller faire un son à Planet Rap. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire si on m'avait dit ça il y a 5 ans, il y a 10 ans. Et donc c'était plus un morceau pour faire, enfin un freestyle calibré pour faire honneur aussi à ça, tu vois, et à me respecter moi-même, tu vois, et respecter l'endroit où je suis invitée. Et ouais, j'aurais pas du tout imaginé que les références générationnelles qui sont dedans auraient pu parler à autant de gens. En fait, je pensais que ça m'était très personnel, mais en fait, c'est juste une époque qui parle à plein d'autres personnes, quoi.
Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de nostalgique, toi?
Je pense que je suis quelqu'un de nostalgique, mais enfin, je suis de manière générale assez mélancolique, je pense. Mais je trouve de la douceur là-dedans. Enfin, je le prends pas comme un fardeau. Ça va. Typiquement, je fais des sons comme ça qui mettent du baume au cœur, j'ai l'impression.
Alors, tu cites notamment, tu parles de la France de Mélanie. La France de Mélanie, c'est la France de Diams.
Si ma France à moi se valorise, c'est bien sûr pour mieux régner. Elle s'intériorise et s'interdit de saigner.
Non, c'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge, avec le cœur et la rage à la lumière, pas dans l'ombre. C'est pas ma France à moi, cette France profonde, celle qui nous fout la honte et aimerait que l'on plonge. Ma France à moi ne vit pas dans le mensonge.
Ça, c'est un morceau Ma France à moi, donc présent sur l'album Dans ma bulle, sorti en 2006, hein, on est toujours dans le thème. Il n'y a pas longtemps, on a consacré une émission à cet album avec entre autres Attic et Masta qui avaient travaillé sur l'album et Bettina Gio. Qu'est-ce qu'a représenté Diams pour toi à ce moment-là? Est-ce que tu l'écoutais beaucoup? Alors, comme beaucoup de gens, parce que c'était vraiment peut-être l'artiste la plus écoutée à ce moment-là dans le pays, est-ce qu'elle a été importante pour toi aussi? Parce qu'on parlait de ton intérêt pour le rap à un moment, est-ce qu'il vient aussi d'une artiste comme Diams, entre autres?
Ouais, moi j'ai un énorme respect pour tout son taf. Je trouve qu'il y a, en fait, il y a des morceaux qui m'ont marqué. Alors, justement, je disais que je venais pas d'une famille qui écoutait du rap, etc. Mais on a entendu Diams et je trouve que, parce qu'elle a fait des tubes sans compromis. Ouais, et c'est un peu la seule à avoir fait ça. Enfin, c'est pas que la seule, enfin, il y a pas
d'autres personnes,
et donc ça m'a marqué, tu vois. On disait tout à l'heure les choses qui infusent sans qu'on le veuille ou non, enfin qu'on le veuille ou pas. Et je pense que j'ai entendu Diams quand j'avais 7-8 ans. J'ai vu Diams à la télé, enfin il y avait tout un truc où même les clips ils étaient ouf, enfin c'était hyper hip hop, moi j'étais waouh, je m'habillais comme ça. Tout un truc qui m'a vachement marqué. Et puis après j'ai redécouvert encore un peu plus tard quand j'ai eu accès à l'ordinateur et que j'ai fait mes téléchargements illégaux pour choper plein de discographies sur internet. Et je trouve ça la qualité de texte, d'écriture, tu vois, ce morceau je l'ai appris par cœur à un moment. C'est hyper compliqué à apprendre par cœur, tellement c'est riche, tellement c'est dense, et tout a sa place, quoi. C'est assez fou.
Je me souviens d'une interview d'elle à l'époque où l'intervieweur lui disait, mais en fait dans le rap vous faites trois couplets, parce qu'à l'époque il y avait trois couplets, et il disait, il n'y a pas un peu de remplissage quand même? Et il disait, bah non, des fois trois couplets c'est trop court pour nous. Et on sent chez elle effectivement qu'il y avait ce côté là là où elle avait beaucoup beaucoup de choses à dire, et voilà, il y avait toujours un peu des couplets à rallonge, mais il n'y avait pas de remplissage justement, c'est vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de choses à dire. Et tu parlais des singles, et c'est vrai qu'il y avait aussi alors des singles sans compromis, puis aussi moi je trouve qu'elle savait faire des bons singles radio, je pense à Jeune Demoiselle, elle savait aussi le faire, quoi.
C'est ça qui est fou, c'est qu'elle savait faire ça, mais sans compromission, enfin tu vois,
ça ressemblait à elle en fait.
Ouais, c'est elle passait à la radio, elle a fait des sons qui passaient bien à la radio, mais c'était diable, c'était pas, enfin ça sortait de tout ce que tu pouvais entendre d'autre, et je trouve ça, enfin c'est un art à part entière de savoir faire ça, je pense.
Alors dans le morceau qu'on a écouté, le tien 2006, on entend à la fois effectivement à la fin, tu dis que tu as pleuré pour un penalty, donc c'est le penalty de David Trezeguet en finale en Allemagne, c'était la Coupe du Monde en Allemagne contre l'Italie. C'est vrai, est-ce que c'était un moment d'enfance un peu traumatique pour toi, cette finale?
Ouais, c'est hyper traumatique. En fait, j'y croyais pas, tu vois. Genre, le lendemain matin, je me suis réveillée, je voulais pas que ce soit, tu vois, je voulais pas que ce soit vrai. Et donc, j'ai vraiment pleuré. Je suis allée dans ma chambre, je me suis mise par terre en boule. Et j'avais, je pense, le cœur brisé, quoi. J'avais tout suivi du début à la fin. Mon père avait mis une petite guirlande, tu vois, sur le balcon. Enfin, j'avais réussi à embarquer un peu ma famille là-dedans.
Parce que c'était
modérément.
Plus toi qui les...
Ouais.
Qui les
comme le rap. Ouais, ils étaient pas... Donc mes deux grandes sœurs, elles n'étaient pas foot, mes parents n'étaient pas foot. Mais on était... donc j'habitais à Strasbourg, on était à la frontière avec l'Allemagne, ça se passait en Allemagne. Il y avait quand même un truc, tu vois, où une espèce d'effervescence autour... enfin, comme toute Coupe du Monde, mais quand même, là, il y avait un truc, c'était en plus la proximité de nous. Et moi, je collectionnais mes panini, j'avais mon carnet. Enfin, il y avait tout un truc où ça...
C'était impliqué,
j'étais
en fait.
Dedans, quoi. J'étais
vraiment impliqué
de ouf.
Ouais.
Et je pensais qu'on allait gagner. Et en fait, c'est quelle déception. Enfin, jusqu'au bout, tu vois, je voulais pas.
Est-ce que c'est une des premières déceptions dont tu te rappelles, peut-être, dans ta vie? Parce que si t'étais enfant, c'est peut-être une des premières fois où t'as été vraiment déçu et triste par...
déçu, triste, frustré. Tu peux rien y faire, tu vois.
C'est fini.
Tu peux... Enfin, ouais, c'est... Donc je pense que ça c'est aussi pour ça que ça m'a autant marqué, quoi.
T'as parlé de Strasbourg, donc effectivement toi t'as grandi en partie là-bas. Quel rapport t'as avec cette ville aujourd'hui? Est-ce que c'est une ville à laquelle t'es attaché, à laquelle t'as peut-être plus trop de liens avec Strasbourg? Comment tu te situes aujourd'hui par rapport à Strasbourg?
Je suis attachée parce que c'est la ville où j'ai grandi. C'est la ville où mes parents habitent encore. J'ai une sœur qui habite là-bas aussi. Enfin, j'y retourne encore assez régulièrement. De moins en moins, plus les années filent, mais je dis toujours que je suis strasbourgeoise alors que ça fait peut-être 6 ans que je suis à Paris, tu vois. Enfin,
oui, donc c'est important pour toi.
Ouais, c'est important. Et c'est rigolo parce que ma toute grande sœur, elle dit pas ça. Enfin, quand on part en voyage par exemple ensemble, elle va dire moi je suis de Lille, et moi je vais toujours dire je suis de Strasbourg, tu vois.
Ok.
Donc je pense que malgré tout, je reste attachée et j'ai passé plein de moments hyper constitutifs, on va dire, de qui je suis à Strasbourg. Et je pense que j'aurais pas été la même personne si j'avais pas grandi à Strasbourg. Donc
Tu restes fier, c'est une ville que tu revendiques. Bon, 2006, c'est plein d'autres choses. Hein. C'est aussi le premier James Bond avec Daniel Craig, par exemple. Voilà, Casino Royale. Je sais pas si tu aimes Daniel Craig. Moi, j'adore.
Si.
Mais c'est aussi un album que j'adore. Et je pense que tu l'as forcément écouté à l'époque. C'est le deuxième album solo de Justin Timberlake. Ça c'est Sexy Back, le premier c'était Justified, le premier album qui était génial, mais alors là, Future Sex Love Sound, produit intégralement par Timbaland, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est un disque que t'as écouté à l'époque? Enfin, c'était dur de passer à côté au moins des singles, mais je sais pas dans quelle mesure c'est un disque qui a pu t'accompagner ou peut-être pas du tout.
Non, je l'ai entendu, pareil, j'ai vu des clips à la télé, je l'ai entendu un peu, et ma sœur... J'ai une sœur qui a 4 ans de plus que moi, je pense qu'elle l'a pas mal écouté quand même.
Ok, donc elle n'écoutait pas que... Parce que j'avais vu qu'elle écoutait notamment Avril Lavigne et
ça,
Kyo.
C'est ma toute grande sœur.
D'accord, ok, très bien.
Celle qui a 6 ans de plus que moi, elle écoutait Avril Lavigne et Kyo. Et celle du milieu, je pense qu'elle a écouté un peu de Justin Timberlake, elle écoutait Rihanna, un peu Beyoncé, tu vois.
Le R&B pop de cette époque-là, en fait.
Ouais. Okay. Elle était un peu plus là-dedans.
Très bien. Bon, on est avec Asfar Shamsi jusque 23h. J'aimerais qu'on parle aussi peut-être un peu de ton rapport à la scène. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est important pour toi. Tu l'as dit d'ailleurs quand tu parlais de QQ en tout début d'interview, tu disais que tu es aussi pressé de le jouer et de voir comment les gens vont prendre ces morceaux, vont se les approprier. Est-ce que tu penses, toi, quand tu écris, quand vous composez avec ton équipe, est-ce que tu penses déjà à la scène, à créer des moments, en tout cas, dans les morceaux. Je sais que beaucoup d'artistes m'ont parfois dit que quand ils commencent à faire la musique, ils pensent pas du tout à la scène. Et puis une fois qu'ils ont fait une première tournée ou des premières dates, ça commence à rentrer dans leur processus de création sur les projets suivants, parce qu'en fait, ça devient un moment important et que c'est important pour eux de justement créer des séquences, en tout cas des ponts, des moments où il va se passer des choses avec le public. Est-ce que tu as ça en tête, toi ?
Pas vraiment. Okay. Je l'ai un peu, mais j'essaye de pas trop l'avoir déjà, parce que j'ai envie d'être, encore une fois, totalement libre de ce que je fais au moment où je le fais. Et aussi parce que je trouve qu'on peut voir ça a posteriori. En fait, on peut vraiment travailler des sons, des réarrangements, okay, etc. pour la scène. C'est ce qu'on a fait récemment. Et après, un dernier truc, c'est que si on pense comme ça, je pense que tu vois, un son comme 2006, je le fais pas. Alors qu'en fait, c'est un son qui marche trop bien en live.
Ouais.
C'est incroyable, les gens, ils le chantent, mais
il n'est pas pensé pour ça.
Il n'est pas pensé pour ça. Et en fait, on s'en fout, parce qu'à la fin, si les gens, ils se prennent le son, que ça les touche, ils le chanteront, et s'ils le chantent pas, ils le ressentiront, enfin ils danseront, tu vois, il y a plein de... Genre, moi souvent je pense scène égale musique électronique, alors qu'en vrai, bah, y a plein d'autres façons de faire des morceaux qui marchent bien sur scène, qui sont pas que électroniques, et puis il y a plein de façons de rendre des morceaux qui sont de base plutôt organique et acoustique, en morceaux électroniques aussi, donc il n'y a pas vraiment de frontières, et je me bride pas par rapport à ça.
Mais ce qui compte en fait, c'est plus la performance de l'artiste, selon toi, et l'émotion que les gens ont au préalable ou vont ressentir pendant live, plutôt que la construction de base du morceau, en fait. C'est ce qui va faire une bonne performance, c'est plutôt
ouais,
ça.
Ouais, c'est surtout que la construction même du morceau, elle peut évoluer pour le live. Enfin, je dirais qu'à la fin, j'ai envie que les gens, ils passent par différentes émotions, et je pense que c'est ce qu'il y a dans le live. Tu vois, il y a une partie qui est un peu plus intimiste, il y a une partie qui est plus club techno, il y a une partie qui est plus ambiance collective. Et en fait, on a pris la matière, on a regardé tout ce qu'il y avait, on a pris la matière, on s'est dit, on a envie que les gens, ils passent par différentes émotions, on a ça qui peut aller dans ce sens-là, etc., etc. On réarrange, on a quoi comme kit aussi sur scène, tu vois, aujourd'hui, on a un kit avec un Moog bass, un clavier, des batteries électroniques et acoustiques, et demain, peut-être qu'on n'aura pas ça, et peut-être qu'il faudra réarranger, et donc on ne peut pas, enfin, la musique en live, elle est là pour être vivante et pour...
Pour évoluer.
Ouais, pour évoluer, et j'ai pas envie de refaire la même chose toute ma vie, donc si je fais un morceau qui est calibré pour la scène, bah je vais le faire comme ça toute ma vie sur scène, alors qu'en vrai, peut-être qu'à un moment j'en aurai marre.
T'as pas quitté un job pour ça.
Exactement.
Tu veux t'amuser, tu veux, évidemment.
Exactement.
Est-ce qu'il y a des artistes que t'as vus sur scène qui t'ont particulièrement marqué, qui ont pu t'influencer, pas directement, mais en tout cas sur cette notion que t'as l'air de revendiquer, vraiment même de liberté, et de un concert ne ressemble pas forcément au précédent. Est-ce qu'il y a des gens comme ça que t'as pu voir qui t'ont marqué?
Bah, y a, dans les concerts que j'ai vus dernièrement, j'ai vu Zao de Sagazan à l'Olympia, j'ai vu Makala à la Cigale. En fait, c'est des...
La dernière Cigale de Makala Ah, bah, j'y étais aussi. Ouais.
Y a, tu vois, il y a des... En fait, c'est des... C'est plein de... Enfin, c'est différentes façons d'habiter la scène.
Ça n'a rien à voir.
Mais c'est... Juste à la fin, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont... Ouais, émancipés, tu vois. Ils sont sur scène, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Et tu vois, Zao de Sagazan, ça va être beaucoup plus théâtralisé.
Tout à fait.
Tout un show lumière, tout est très bien pensé, les déplacements, les moments où elle va boire, tu vois, on la voit même pas boire de l'eau tellement c'est calibré.
Ouais.
Et Makala, c'est le contraire.
Makala,
c'est juste,
surtout sur la Cigale, il y avait rien.
Ouais, il y a rien.
À part lui, et c'était suffisant.
En fait. Et en fait, c'est ça qui est ouf. Et c'est juste, tout ne convient pas à tout le monde.
Ouais, ouais.
Et il faut que chacun trouve sa façon d'être sur scène. Mais je trouve que c'est deux personnes dans des esthétiques tellement
très différentes
qui arrivent à faire ça, tu vois. Et bon, c'est ça que je trouve stylé.
Je pense qu'on écoute un morceau, je sais pas si tu écoutes ou pas Harry Styles.
Non.
Eh bien, moi, à la base, je suis comme toi. J'écoute pas Harry Styles. Mais le dernier morceau est vraiment pas mal. Je sais pas si tu l'as écouté.
Non.
Eh bien, tu vas le découvrir aujourd'hui. Alors, ça s'appelle Aperture. C'est donc, ça a été le grand retour d'Harry Styles. Donc, tous les fans étaient évidemment extrêmement chauds. Et franchement, j'aime bien. Tu me diras ce que t'en penses. Harry Styles, Aperture.
Take no prisoners for me. I'm told you're elevating. Drinks go straight to my knees. I'm so, I'm going on Bye.
c'était le tout nouveau morceau d'Harry Styles, Aperture. On valide ou pas, enfin,
je valide. Ça.
Ah, je t'ai vu t'ambiancer un petit peu.
T'as aimé? C'est vrai, j'ai aimé. Non, franchement, bon. J'ai assez intéressant.
Bon, on continue tout de suite avec tes recommandations.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et tu m'as recommandé un album que je ne connaissais pas, qui date, je crois, de 2019, si je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas écorcher son nom, Mayra Andrade.
Ouais, Andrade, je crois.
Andrade, peut-être, ouais. Voilà. Je pense qu'on écoute un extrait, puis tu nous en parles juste après. En fait, c'est vraiment une rubrique qui est très égoïste. Hein. C'est moi qui découvre de la musique grâce aux invités. Je ne connaissais pas. Est-ce que tu peux me parler d'elle? Comment tu as découvert peut-être cet artiste?
J'ai découvert en concert. Et justement, okay. dans les concerts que j'ai vus, c'est un concert qui m'a marqué.
Tu vas souvent voir des gens que tu ne connais pas forcément ou en festival peut-être?
Ouais, c'était en festival, okay. C'était la fête de l'humain.
Okay.
Et je fais souvent, j'aime okay. bien. Et en fait, c'était un dimanche et l'ambiance, elle était incroyable. Mais très chill, très posée et y avait du soleil. Enfin, le moment était trop beau.
Parfait. Ouais.
Et je trouve que c'est une musique parfaite pour ce moment-là. Et en fait, je pense que la musique a contribué, enfin le concert a contribué à faire de ce moment un moment parfait. Et en fait, je trouve que c'est, oui, on peut l'écouter, tu vois. Si tu vas pas bien, tu peux écouter ça. Si tu vas bien, tu peux écouter ça. Si tu sais pas quoi mettre dans la voiture, tu peux écouter ça.
Ouais.
J'ai l'impression que ça peut parler à tout le monde. Pour moi, c'est la musique, tu vois, au sens. Enfin, si je m'imagine la musique, c'est ça, quoi.
Quelque chose de fédérateur aussi.
Ça chante hyper bien. C'est hyper bien joué. Enfin, il y a plein d'instruments, il y a plein de choses qui se passent. Je trouve ça très beau.
Ben, merci pour la recommandation. Déjà, l'album s'appelle Manga.
Exactement.
Voilà, c'est le titre éponyme qu'on vient d'écouter. Film Ceux qui rougissent.
C'est une série.
C'est une série, pardon, ouais. Ceux qui rougissent, ouais.
C'est une série qui est d'ailleurs dispo sur Arte. Et je trouve que c'est une série qui est indirectement sur l'adolescence.
Ouais.
Et moi, l'adolescence, je pense que c'est un âge qui me fascine.
On le comprend quand on écoute ta musique, ouais.
Ouais. Et justement, je trouve on voit bien qu'à l'adolescence, on est un peu déchiré, tu vois, entre nos désirs et ce dont on veut paraître. Et je trouve que, voilà, à l'adolescence, on doit vraiment se contraindre. Et cette série le montre bien. Enfin, se contraindre dans qui on est, quoi, dans l'expression de son identité. Et ouais, c'est assez émouvant. Donc, je le recommande, c'est accessible facilement.
On a compris qu'aujourd'hui, ben, t'es dans l'âge adulte. Je crois qu'on l'a, même si l'adolescence a duré longtemps, et que du coup t'es aussi à l'aise avec toi, avec qui tu es. Est-ce que l'adolescence, il y avait des personnes à qui tu voulais ressembler? Est-ce que c'était qui tes héroïnes ou tes héros?
Je pense qu'on veut ressembler aux gens cool, tu vois, de la cour de récré, populaire. Ouais. Je pense, il y a un peu ce truc-là. Puis on veut ressembler à tout ce qu'on imagine de ce, enfin aussi ce qu'on projette, tu vois, d'être stylé, d'être beau, d'être
populaire,
ouais, enfin d'être intelligent, mais en même temps que ce soit pas non plus un frein, enfin tu
ouais,
es toujours
faut pas être vu comme l'intello non plus,
ouais, mais il faut quand même pas être con, enfin
genre,
et en fait c'est plein de choses impossibles
à concilier,
ouais. Et
qu'il y avait des personnalités qui te faisaient rêver, à qui tu voulais ressembler?
Je pense que quand j'étais petite, je voulais ressembler à Zidane. Je pense que
j'ai bientôt 40 ans, je vais encore ressembler à Zidane.
Mais je sais que
ça bouge pas,
jamais,
ça bouge pas.
Maintenant, j'ai compris que.
Ah, c'était vraiment ton héros, en fait.
Ah, je pense que c'est un. Ouais, quand j'étais petite, ouais. C'est une figure. Mais après, en fait, maintenant, à posteriori, je me dis que c'est aussi une figure paternelle. Tu vois, il y a tout un truc. Mais ouais, c'était. Enfin. Pour moi, il est parfait, tu vois.
Mais c'est fou qu'on soit quand même nombreux à ressentir ça. Parce que non, mais vraiment, je trouve qu'en France, il y a un peu cette espèce d'halo autour de lui, il est parfait alors qu'il l'est sûrement pas. Mais c'est assez étrange, quoi, qu'on partage tous un peu, beaucoup en tout cas, qu'on soit nombreux à partager ce sentiment, je trouve, sur lui. Et à l'adolescence, ça a évolué ou non, ça s'est resté?
À l'adolescence, je pense qu'il y avait des... ça a évolué, c'est sûr que c'était plus Zidane. Je pense qu'il y a eu des... Il y a plutôt des collectifs auxquels je m'identifiais, tu vois, plus que je voulais ressembler, mais notamment la 75e session, c'est un collectif
qui m'a... Donc là, on arrive dans le rap, bien sûr.
Qui m'a grave marqué, et j'aurais bien aimé en être, tu vois.
Ouais, ok. C'est ce qui dégageait en termes d'esprit, Sheldon, Népal, Repose en Paix, enfin, toute cette équipe-là, en fait.
Okay. Ouais.
Très bien. Afar Shamsi, c'est l'heure de la question qui tue. Et je suis très pressé de te poser cette question. parce que j'ai l'impression que tu as écouté beaucoup de choses différentes dans ta vie. Des albums issus de genres musicaux très différents, même si on a compris que le rap est important pour toi. Mais il n'y a pas que ça. Donc, j'ai l'impression que tu as super peur. Vraiment. Il n'y a pas de question piège. Non, mais c'est très simple. Demain, tu ne peux plus écouter qu'un seul album dans ta vie. Voilà, c'est ça. Tu choisis quoi ? Est-ce qu'on part sur du rap ? Ah ouais, c'est du rap.
Ouais,
ça reste vraiment le truc le plus
important. Je pense à Adios Bahamas.
Ah, donc de Népal.
Ouais.
Ok, très bien. Donc c'est un album en plus posthume, qui est sorti un peu après son décès. C'est ton disque peut-être préféré de rap français ?
Je sais pas si c'est mon disque préféré. Enfin, il y en a plein. Après, tu vois, ça aurait pu être aussi une petite trilogie, La vie augmente. Mais...
De Isha. Ouais.
Mais je crois, en fait, c'est des albums que j'ai écoutés à des moments tellement clés de ma vie que la tâche, elle sera. Il n'y aura jamais rien qui peut égaler ça.
C'est terrible. J'allais te poser cette question. Est-ce que tu penses qu'un jour, tu auras une émotion ? Et je pense que c'est compliqué d'avoir des émotions un jour qui dépassent ce que tu ressens à des moments dans ta vie où tu es un peu plus impressionnable, un peu plus naïf aussi, peut-être, plus jeune peut-être aussi.
Ouais, et puis je pense que tu te construis. Enfin, je continuerai de me construire, tu vois, mais il y a des moments clés de ma vie qui n'existeront plus. Enfin, de construction de soi. Et ces albums-là, ces projets-là, ils m'ont accompagné à ces moments-là. Et donc, ça me ramènera toujours à ça. Enfin, ça a été tellement fondamental et comme partie de ma construction que je pense qu'on ne peut pas égaler ça.
Bon, Adios Bahamas, avec notamment le morceau Trajectoire. Je propose qu'on écoute un extrait de ce titre exceptionnel.
Une vie peut se résumer en quatre phrases. Néglige pas le taf. Et vu que dehors, c'est un traquenard. J'ai dû contourner avec du vice et un trackpad. Je profite d'un flashback. Des disquettes de la Snap. Bonne action lundi, pas pour être pute les autres jours de la semaine. Cette ville est sinistre, partout bleu diacimis. Faut pas qu'on oublie la magie qu'il y a dans nos iris. Ne laisse pas désarmer la réalité, tu la crées en partie. Chaque action un grain dans le sablier qui t'est imparti. Esprit concentré si tu perds pas ton temps. Rassuré par l'amour des nôtres sur le chemin qu'on prend. Vois-tu, j'ai arrêté d'essayer.
Népal, donc extrait du morceau Trajectoire et donc extrait lui-même de l'album Adios Bahamas. Merci beaucoup, Asfar Chamfi, d'avoir été là aujourd'hui. C'était un plaisir.
Merci pour
le jour de la sortie de Kwikwi. J'ai dit Kwikwi. Alors moi, j'ai un problème, c'est que je dis Kwikwi. Enfin, je prononce très mal dès qu'il y a le oui. Voilà,
mais ça marche, franchement.
Ça marche, tu le valides quand même.
C'est libre de prononciation.
Très bien. C'est la liberté toujours. On revient à ça. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment plein de force et de bonnes choses pour ce projet.
Merci.
On attend les concerts et les festivals. Et merci évidemment à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication de cette émission, qui était préparée par Alexia Lacour et Redouane Taylor, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Nicolas Delmas et Laurent Baudouin. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous serons avec Midsizer, qui lui aussi vient de sortir un EP vendredi dernier. Pour découvrir, redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.
France Inter. Régulière, Mehdi Maizi.